Vous écoutez France Culture.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Maëlys Bessery.
Il est 12h30 sur France Culture et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction.
Après le coup de poignard dans le dos que lui a planté cette nuit Donald Trump, Theresa May se dit impatiente de s'asseoir aujourd'hui autour d'une table avec le président américain. Dans un entretien au Sun, le chef de la Maison Blanche a estimé que le plan de sortie de l'UE, tel que prévu par la première ministre britannique, tuerait probablement la possibilité de conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis. Aude Soufi nous appellera de Londres. Et puis après cette nouvelle salve donc du président américain, nous tenterons de comprendre la stratégie de cet impitoyable battleur, décidément qu'est Donald Trump. Nous poserons la question à Axel Kroos, journaliste américain correspondant en France de Transatlantique Magazine. Le Premier ministre Édouard Philippe présentait ce matin un nouveau plan d'action contre le terrorisme, le quatrième en quatre ans. Tous les détails dans ce journal avec Camille Magnard. Et puis toujours en complément de la présentation donc de ce plan d'action, nous écouterons Muriel Domenac, la secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, interrogée par Florence Turme. Le manque chronique de personnel à l'hôpital, 19 000 postes de médecins non pourvus. Comment en est-on arrivé à une telle hémorragie? Explication de Catherine Pétillon. Enfin, 12h15, ce sera à la grande table d'été au menu. Aujourd'hui, Maëlys.
Nous allons parler de Roméo et Juliette, mis en scène par Eric Ruff à la Comédie Française, avant de faire le portrait du metteur en scène, Jean-François Civadier.
À tout à l'heure. Si Winston Churchill a toujours su manier le verbe avec habileté, son expression énigmatique « relation spéciale » n'aura sans doute jamais autant exprimé toute la complexité des liens privilégiés entre Londres et Washington que ces dernières 24 heures. Au premier jour de sa visite officielle au Royaume-Uni, le tapis rouge venait à peine de lui être déroulé que le président américain a jugé bon de torpiller, ni plus ni moins, le projet de Brexit de Theresa May. Dans un entretien accordé au tabloïd The Sun, il dit regretter que la première ministre britannique n'ait pas écouté son conseil de se montrer plus dur dans les négociations avec Bruxelles, avant de préciser « il n'y aura pas d'accord de libre-échange avec Washington si elle maintient une relation économique étroite avec l'UE après le Brexit ». Alors évidemment, pour la chef de l'exécutif britannique, laquelle tente de rasseoir son autorité sur son parti conservateur, la nouvelle sortie de Trump est une claque d'autant plus cinglante que juste avant, elle avait encore vanté la force transatlantique, y voyant même une opportunité sans précédent. Alors désormais, tout le monde attend de savoir comment Theresa May réagira aujourd'hui lors de son tête-à-tête avec le président américain. Les apparences seront-elles sauves? Il sera difficile, quoi qu'il en soit, d'ignorer les milliers de manifestants attendus, eux, aujourd'hui, dans les rues de Londres. C'est une correspondance d'Aude Soufi.
Voilà ce qu'affirmait Donald Trump hier.
Je pense que les gens au Royaume-Uni, en Irlande, en Écosse, je pense que ces gens m'aiment beaucoup.
Voilà ce qu'il attend cet après-midi.
On veut être sûr qu'il sache qu'il n'est pas le bienvenu ici. Que ses positions, c'est tout ce que nous rejetons. Que sa politique fait du tort à des millions de personnes. Pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde.
Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale pour protester de façon parfois originale, en chansons ou scénettes de théâtre. Un ballon géant de 6 mètres représentant Donald Trump en bébé en colère a même été autorisé à survoler la capitale. Le maire de Londres a depuis longtemps une relation conflictuelle avec le président américain qui s'en prend souvent personnellement à lui, notamment sur Twitter. Mais pour Sadiq Khan, il s'agit là de respecter les droits fondamentaux.
Le point le plus important, c'est que ces manifestations sont permises. L'une des raisons de notre relation spéciale avec les États-Unis, ce sont nos valeurs en commun, parmi lesquelles la liberté de manifestation et d'expression.
L'objectif de la visite de Donald Trump était de resserrer les relations entre les deux pays dans la perspective de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour le moment, c'est bien mal parti.
Après Angela Merkel, vertement critiquée au sommet de l'OTAN, c'est donc au tour de Theresa May de faire les frais de Trump, de la Trump-attitude et de son show permanent, d'où cette question. Pourquoi le locataire de la Maison Blanche prend-il ainsi un malin plaisir à miner régulièrement la confiance mutuelle? Nabila Hamel a posé la question à Axel Kroos, journaliste américain correspondant en France du Transatlantique Magazine.
Pour comprendre un peu la logique de cette tactique qu'il a déjà utilisée avant, c'est d'abord d'attaquer, de déstabiliser l'opposant ou même des alliés, comme il l'a fait à Bruxelles pendant le sommet de l'OTAN, et ensuite de trouver la solution d'un problème qu'il a créé. Et c'est ça un peu le fonctionnement de Trump. Tout est un jeu, il est transactionnel, ça veut dire c'est un homme d'affaires qui dirige la Maison Blanche et l'administration comme si c'était une entreprise et c'est lui le boss qui décide tout. Il écoute souvent même pas ses ses collaborateurs très proches. Donc, c'est toujours lui qui décide. Et quand il décide, c'est imprévisible, c'est souvent chaotique, mais la stratégie est toujours la même. Donc, il a commencé à attaquer violemment des alliés. Mais ça, c'est Donald Trump. C'est difficile à comprendre, mais il a une mentalité, une sorte de composition dans sa tête, unreachable. Ça veut dire extrêmement difficile à comprendre et même de soigner, selon des termes psychiatriques.
Friand manifestement de gestes diplomatiques inédits, Donald Trump, toujours lui, a publié hier une lettre décrite comme très gentille que lui a adressé son nouvel ami Kim Jong-un, une manière d'acter en somme preuve à l'appui la reprise du dialogue entre les deux pays, ce quelques jours seulement après que Pyongyang avait accusé Washington de lui avoir présenté des exigences dignes de gangsters. On enregistre de grands progrès, a aussitôt commenté Donald Trump sur Twitter. Depuis son élection au Mexique, lui aussi a souvent été présenté comme un président, pas comme les autres. Déjà lors de sa campagne, Andrés Manuel López Obrador avait promis de remettre Trump à sa place. Sauf qu'après avoir été élu, les deux hommes se sont appelés au téléphone et assurent désormais entretenir de bonnes relations. Alors aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est attendu à Mexico pour une première rencontre avec le tout nouveau président élu de gauche. Tous les sujets à l'origine de multiples fractions ces derniers mois entre les deux pays seront mis sur la table. L'immigration, le commerce et la sécurité. En Syrie, 28 civils ont été tués dans un raid aérien contre l'un des derniers réduits du groupe djihadiste État islamique à Deir ez-Zor, dans l'est du pays, non loin de la frontière avec l'Irak. Et puis si l'implication de pays étrangers, de groupes djihadistes a considérablement complexifié aujourd'hui le conflit syrien, n'oublions pas que celui-ci est né en 2011 d'une insurrection contre le régime de Bachar el-Assad. Hier, la ville de Deraa, lieu historique justement de cette insurrection, a été reprise par les forces gouvernementales. Une victoire symbolique donc pour Damas et un revers pour les rebelles lâchés notamment par les États-Unis. Édouard Philippe a dévoilé ce matin un nouveau plan de lutte contre le terrorisme, une menace qui reste forte selon lui malgré les mesures prises après les attentats de 2015. Alors ce plan est le quatrième en réalité en 4 ans et pour s'adapter à une menace plus endogène, comprenez plus intérieure qu'extérieure, le Premier ministre a précisé notamment comment il entendait réorganiser à présent les services de sécurité. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Thomas.
Dans ce nouveau plan, il apparaît tout d'abord très clairement que c'est la DGSI qui devient le bras armé en quelque sorte de la lutte antiterroriste.
Oui, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure basée à Levallois-Perret au nord de Paris devient le centre névralgique de toute la réponse antiterroriste. C'est là qu'un état-major opérationnel va être créé cet automne. Y seront représentés physiquement et de manière permanente tous les services concernés, renseignement, police judiciaire, gendarmerie, 14 services en tout, 4 ministères concernés réunis pour échanger en continu les informations qui vont leur remonter du terrain et passer à l'action si besoin pour prévenir les passages à l'acte.
Et pour faire donc ces informations du terrain, Camille, le plan prévoit d'impliquer notamment les maires dans la collecte de renseignements.
Oui, pas question de faire de nos élus locaux des agents de la DGSI, assure le Premier ministre, mais les maires seront invités à alerter les préfectures, les services de l'État en toute confiance et en toute confidentialité, nous assure-t-on, les alerter sur les premiers signaux qui peuvent permettre de détecter des dangers, des personnes, des organisations ou des lieux qu'il faudrait surveiller, par exemple. Sur la prise en charge judiciaire à présent des affaires liées au terrorisme, Édouard Philippe confirme la création d'un parquet national antiterroriste sur le modèle du parquet national financier. Il sera doté de magistrats et de fonctionnaires dédiés à plein temps à ces dossiers terroristes. Cela permettra de désengorger le parquet de Paris qui était débordé par ces dossiers, de les traiter plus vite aussi et plus spécifiquement. Et cet axe judiciaire n'est pas seulement parisien, il va être décliné sur tout le territoire, nous explique Édouard Philippe.
Sa création s'accompagnera par ailleurs de la désignation de procureurs délégués antiterroristes au sein des parquets territoriaux les plus exposés. Ils formeront un vivier de magistrats immédiatement et efficacement mobilisables en cas d'attaque terroriste. C'est donc un véritable maillage territorial antiterroriste au niveau judiciaire que nous allons créer.
Et puis parmi les nouveaux outils déployés, Camille, pour limiter les trous dans notre filet antiterrorisme, il y aura aussi la création d'une cellule de profilage.
Oui, des agents qui vont être chargés de se plonger dans les moindres détails connus des derniers attentats, commis ou déjoués. Il s'agira de définir un profil type ou en tout cas des éléments communs permettant de mieux se mettre dans la tête des terroristes. Voilà pour l'essentiel des 32 mesures présentées ce matin par Édouard Philippe, et qui précise bien que 8 autres mesures sont mises en œuvre, mais celles-là resteront confidentielles.
Merci Camille Magnier. dernière. Alors ce plan d'action contre le terrorisme doit en réalité compléter le dispositif de prévention de la radicalisation déjà lancé en février dernier et piloté par la nouvelle secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, Muriel Domnach. Elle dresse au micro de Florence Turme un premier bilan de son dispositif.
Depuis la mise en œuvre de ce plan, on a d'ores et déjà décliné les mesures qui sont la première partie du plan sur l'école. La détection également des signaux de radicalisation dans les administrations. Deux décrets permettent d'ores et déjà d'écarter de ses fonctions un agent public exerçant des missions de souveraineté qui serait identifié comme radicalisé. Il faut étendre la détection dans l'université, dans le monde de l'entreprise, puis dans le monde du sport, le sport qui est particulièrement ciblé par la radicalisation, et puis bien sûr poursuivre les expérimentations de désengagement et de réinsertion, c'est le plus difficile. Vous savez qu'on a 2600 jeunes qui sont pris en charge dans le milieu ouvert, donc sous la responsabilité des préfets, et 800 familles accompagnées en soutien à la parentalité, 1200 détenus de droit commun radicalisés, plus 500 détenus condamnés ou prévenus pour terrorisme. On travaille aussi à cette fameuse troisième voie entre le milieu ouvert et la détention. C'est le programme dit RIV en Ile-de-France qui suit une quinzaine de jeunes sous main de justice. Et puis enfin, le désengagement, c'est aussi le suivi des sortants de prison. Un dispositif spécifique sécurité est acté dans le plan présenté aujourd'hui. En complément, un dispositif de réinsertion est en cours de développement pour permettre une réaffiliation des radicalisés sortant de détention.
Muriel Domnach, secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, elle répondait à Florence Turme. Un an après la crise ouverte entre Emmanuel Macron et son chef d'état-major sur des questions budgétaires qui avaient provoqué, on s'en souvient, le départ du général Pierre de Villiers, l'orage semble s'être dissipé. Les armées défileront bien de main forte de la promesse de moyens accrus. La nouvelle loi de programmation militaire que le chef de l'État doit promulguer aujourd'hui prévoit près de 300 milliards d'euros de crédits cumulés pour atteindre 2% du PIB d'ici 7 ans. L'hôpital souffre d'un manque chronique de personnel, on le savait, mais les chiffres publiés hier sont pour le moins saisissants, sinon alarmants. 19 000 postes de médecins non pourvus dans les hôpitaux. Catherine Pétiot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Selon le rapport annuel du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, plus d'un quart des postes de titulaires à temps plein sont vacants et près de la moitié des postes à temps partiel.
Oui, ces chiffres confirment une tendance lourde et déjà ancienne, mais cette année, leur publication prend un écho particulier alors que dans de nombreux hôpitaux, le manque d'effectifs aboutit à des situations très difficiles, burn-out, conflits, défauts de prise en charge, etc. Dans la crise complexe que traverse l'hôpital, la question des ressources humaines joue un rôle fondamental. Pourquoi ces 19 000 postes vacants ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est la démographie médicale. Si l'on regarde les chiffres de l'ordre des médecins, entre 2006 et 2016, le nombre de médecins retraités a augmenté de près de 88% et celui des actifs d'1,2%. Pas de quoi compenser les départs, donc un effet décalé dans le temps du numerus clausus qui pendant plusieurs années a drastiquement limité le nombre de médecins formés. Le taux de vacance, lui, est variable selon les régions et les spécialités. Sont davantage touchés la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire et la Normandie. Côté spécialité, le manque de radiologues, d'ophtalmos et d'anesthésistes réanimateurs se fait sentir, mais on voit aussi certains services, comme par exemple en pédopsychiatrie, tourner au quotidien uniquement avec des contractuels. Car sur les postes non pourvus, 12 000 sont néanmoins occupés par des contractuels, note ce rapport du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, là aussi pour des raisons assez variables, car à l'aspect quantitatif s'ajoutent aussi des attentes différentes des médecins et une tendance à s'installer plus tardivement après leur internat. C'est à la question de l'attractivité des postes et des territoires que doit encore répondre l'hôpital.
Merci Catherine Pétillon. Dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi réformant l'apprentissage et la formation professionnelle, le Sénat a rejeté cette nuit la proposition du gouvernement de confier aux partenaires sociaux le soin de négocier une nouvelle convention d'assurance chômage. Enfin, une nouvelle épreuve pour Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, se rend aujourd'hui en Avignon à l'occasion du festival où elle doit rencontrer les représentants du spectacle vivant. Un mot du temps pour aujourd'hui. ville restera estivale. Il y aura toutefois des averses cet après-midi au nord, des orages également sur les Pyrénées. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 23 et 33 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Yacine Bouzard. Je vous retrouve pour ma part à 18h pour le prochain journal de la rédaction.